Des responsables officiels, des personnalités politiques, militaires, religieuses, mais aussi des diplomates, dans l'espoir de relancer le dialogue entre Libanais et faciliter l'élection.
Radio G, 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire sous-jacente,
j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur. Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Lire ou relire Colette est un plaisir sans cesse renouvelé, tant sa langue savoureuse nous régale de sensations. Nous avons choisi de vous faire entendre des extraits de Sido, œuvre publiée en 1930, où elle met en scène sa famille. À travers différents souvenirs, souvent pittoresques, elle dresse avec tendresse et nostalgie les portraits de sa mère, une femme forte et vive, et de son père, le capitaine, qu'elle regrette d'avoir si mal connu. À travers eux, se dessine en filigrane la personnalité de l'écrivaine si peu conformiste, son amour de la nature et de tous les êtres vivants.
Levée au jour, parfois devançant le jour, ma mère accordait aux points cardinaux, à leurs dons comme à leurs méfaits, une importance singulière. C'est à cause d'elle, par tendresse invétérée, que dès le matin et du fond du lit je demande
« D'où vient le vent ?»
À quoi l'on me répond
« Il fait bien joli, c'est plein de passereaux dans le palais royal. Oh, il fait vilain, un temps de saison. »
Il me faut maintenant chercher la réponse en moi-même. Guetter la course du nuage, le ronflement marin de la cheminée, réjouir ma peau du souffle d'ouest, humide, organique et lourd de signification, comme la double haleine divergente d'un monstre amical. À moins que je ne me replie haineusement devant la bise d'est, l'ennemi, le beau froid sec et son cousin du nord. Ainsi faisait coiffant de cornets en papier toutes les petites créatures végétales assaillies par la lune rousse.
« Il va geler, la chatte danse, »
disait-elle. Son ouïe, qu'elle garda fine, l'informait aussi, et elle captait des avertissements éoliens.
« Écoute, sur Moutier !»
me disait-elle. Elle levait l'index et se tenait debout entre les hortensias, la pompe et le massif de rosiers. Là, elle centralisait les enseignements d'ouest, par-dessus la clôture la plus basse.
« Tu entends ? Rentre le fauteuil, ton livre, ton chapeau. Il pleut sur Moutier. Il pleuvra ici dans 2 ou 3 minutes seulement. »
Je tendais mes oreilles sur Moutier. De l'horizon venait un bruit égal de perles versées dans l'eau et la plate odeur de l'étang, criblée de pluie, vannée sur ses vases verdâtres. Et j'attendais, quelques instants, que les douces gouttes d'une averse d'été sur mes joues, sur mes lèvres, attestassent l'infaillibilité de celle qu'un seul être au monde, mon père, nommait Sido. Des présages, décolorés par sa mort, errent encore autour de moi. L'un tient au zodiaque, l'autre est purement botanique. Quelques signes jouent avec les vents, les lunaisons, les eaux souterraines. C'est à cause d'eux que ma mère trouvait Paris fastidieux, car il n'était libre, efficace, péremptoire qu'au plein air de notre province.
« Pour vivre à Paris,
me confiait-elle,
il m'y faudrait un beau jardin. Et encore, ce n'est pas dans un jardin de Paris que je pourrais cueillir et coudre pour toi, sur un petit carton, les grands grains d'avoine barbue qui sont de si sensibles baromètres. »
Je me gourmande d'avoir égaré jusqu'au dernier ces baromètres rustiques, grains d'avoine dont les deux barbes, aussi longues que celles des crevettes bouquées, viraient, crucifiées sur un carton, à gauche, à droite, prédisant le sec et le mouillé. Sido n'avait point sa pareille pour feuilleter, en les comptant, les pelures mi-cassées des oignons.
Une, deux, trois robes sur l'oignon.
Elle laissait choir lunettes ou binocles sur ses genoux, ajoutait pensivement.
C'est signe de grand hiver. Je ferai habiller de paille la pompe. D'ailleurs, la tortue s'est déjà enterrée. Et les écureuils autour de la guillemette ont volé des noix et les noisettes en quantité pour leurs provisions. Les écureuils savent toujours tout.
Annonçait-on dans un journal le dégel ? Ma mère haussait l'épaule, riait de mépris.
Le dégel ! Les météorologues de Paris ne m'en apprendront pas. Regarde les pattes de la chatte.
Frileuse, la chatte en effet pliait sous elle ses pattes invisibles et serrait fortement les paupières.
Pour un petit froid passager,
continuait Sido,
la chatte se roule en turban, le nez contre la naissance de la queue. Pour un grand froid, elle gare la plante de ses pattes de devant et les roule en manchon.
Sur des gradins de bois peints en vert, elle entretenait toute l'année des reposoirs de plantes en pot. Géranium rare, rosier nain, reine des prés au panache de brumes blanches et roses. Quelques plantes grasses, poilues et trapues comme des crabes, des cactus meurtriers. Un angle de mur chaud gardait des vents sévères son musée d'essais, des godets d'argile rouge où je ne voyais que terre meuble et dormante.
Ne touche pas !
Mais rien ne pousse.
Et qu'en sais-tu ?
Est-ce toi qui en décides ?
Lis sur les fiches de bois qui sont plantées dans les pots. Ici, graines de lupin bleu. Là, un bulbe de narcisse qui vient de Hollande. Là, graines de physalis. Là, une bouture d'hibiscus. Mais non, ce n'est pas une branche morte. Et là, des semences de pois de senteur dont les fleurs ont des oreilles comme des petits lièvres. Et là.
Ma mère rejetait son chapeau en arrière, mordillait la chaîne de son lorgnon, m'interrogeait avec ingénuité.
Je suis bien ennuyée. Je ne sais plus si c'est une famille de bulbes de crocus que j'ai enterrés ou bien une chrysalide de paon de nuit.
Il n'y a qu'à gratter pour voir.
Une main preste arrêtait la mienne. Que n'a-t-on moulé, peint, ciselé cette main de Sido, brunie, tôt gravée de rides par les travaux ménagers, le jardinage, l'eau froide et le soleil. Ses doigts longs bien façonnés en pointe, ses beaux ongles ovales et bombés.
À aucun prix. Si c'est la chrysalide, elle mourra au contact de l'air. Si c'est le crocus, la lumière flétrira son petit rejet blanc et tout sera à recommencer. Tu m'entends bien? Tu n'y toucheras pas.
Non, maman.
À ce moment, son visage, enflammé de foi, de curiosité universelle, disparaissait sous un autre visage plus âgé, résigné et doux. Elle savait que je ne résisterais pas, moi non plus, au désir de savoir, et qu'à son exemple, je fouillerais, jusqu'à son secret, la terre du pot à fleurs. Elle savait que j'étais sa fille, moi qui ne pensais pas à notre ressemblance, et que déjà je cherchais, enfant, ce choc, ce battement accéléré du cœur, cet arrêt du souffle, la solitaire ivresse du chercheur de trésors. Un trésor, Ce n'est pas seulement ce que couvent la terre, le roc ou la vague. La chimère de l'or et de la gemme n'est qu'un informe mirage. Il importe seulement que je dénude et hisse au jour ce que l'œil humain n'a pas avant le mien. J'allais donc, grattant à la dérobée le jardin d'essai, surprendre la griffe ascendante du cotylédon, le viril surgeon que le printemps chassait de sa gaine. Je contrariais l'aveugle dessein que poursuit la chrysalide d'un noir brun bilieux et la précipitait d'une mort passagère au néant définitif.
Tu ne comprends pas ! Tu ne peux pas comprendre ! Ah, tu n'es qu'une petite meurtrière de 8 ans, de 10 ans. Tu ne comprends rien encore à ce qui veut vivre.
Je ne recevais pas, en paiement de mes méfaits, d'autres punitions. Celle-là m'était d'ailleurs assez dure. Sido répugnait à toute hécatombe de fleurs. Elle qui ne savait que donner, je l'ai pourtant vue refuser les fleurs qu'on venait parfois quêter pour parer un corbillard ou une tombe. Elle se faisait dure, fronçait les sourcils et répondait non d'un air vindicatif.
Mais c'est pour le pauvre monsieur Enfer qui est mort hier à la nuit. La pauvre madame Enfer fait peine. Elle dit qu'elle voudrait voir partir son mari sous les fleurs, que ce serait sa consolation. Vous qui avez de si belles roses mousses, madame Colette.
Mais roses mousses ! Quelle horreur ! Sur un mort !
Après ce cri, elle se reprenait et répétait.
Oh non ! Personne n'a condamné mes roses à mourir en même temps que monsieur Enfer.
Mais elle sacrifiait volontiers une très belle fleur à un enfant très petit. Un enfant encore sans parole. Comme le petit qu'une mitoyenne de l'Est lui apporta par orgueil un jour dans notre jardin. Ma mère blâma le maillot trop serré du nourrisson, dénoua le bonnet à 3 pièces, l'inutile fichu de laine, et contempla à l'aise les cheveux en anneaux de bronze, les joues, les yeux noirs sévères et vastes d'un garçon de 10 mois. Plus beau vraiment que tous les autres garçons de 10 mois. Elle lui donna une rose cuisse de nymphe émue, qu'il accepta avec emportement, qu'il porta à sa bouche et suça. Puis il pétrit la fleur dans ses puissantes petites mains, lui arracha des pétales, rebordés et sanguins à l'image de ses propres lèvres.
« Attends, vilain !»
dit sa jeune mère. Mais la mienne applaudissait, des yeux et de la voix, au massacre de la rose. Et je me taisais, jalouse. Elle refusait régulièrement aussi de prêter géranium double, pélargonium, lobélia, rosier nain et reine des prés au reposoir de la fête Dieu, car elle s'écartait, baptisée, mariée à l'église, des puérilités et des fastes catholiques. J'obtins d'elle la permission de suivre le catéchisme entre 11 et 12 ans et les cantiques du salut. Le 1er mai, comme mes camarades de catéchisme, je couchai le lilas, la camomille et la rose devant l'autel de la Vierge. Et je revins, fier de montrer un bouquet béni. Ma mère rit de son rire irrévérencieux, regarda ma gerbe, qui attirait les hannetons au salon jusque sous la lampe.
« Crois-tu qu'il ne l'était pas déjà avant ?»
Je ne sais d'où lui venait son éloignement de tout culte. J'aurais dû m'en enquérir. Mes biographes, que je renseigne peu, la peignent tantôt sous les traits d'une rustique fermière, tantôt la traite de bohème fantaisiste. L'un d'eux, à ma stupeur, va jusqu'à l'accuser d'avoir écrit des œuvrettes littéraires destinées à la jeunesse. Au vrai, cette Française vécut son enfance dans Lyon, son adolescence parmi des peintres, des journalistes, des virtuoses de la musique en Belgique, où s'étaient fixés ses 2 frères aînés. Puis, elle revint dans Lyon et s'y maria, 2 fois. D'où, de qui, lui furent remis sa rurale sensibilité, son goût fin de la province. Je ne saurais le dire. Je la chante de mon mieux. Je célèbre la clarté originelle qui en elle refoulait, éteignait souvent les petites lumières péniblement allumées au contact de ce qu'elle nommait le commun des mortels. Je l'ai vue suspendre dans un cerisier un épouvantail à effrayer les merles. Car à l'ouest, notre voisin, enrhumé et doux, secoué d'éternuements en série, ne manquait pas de déguiser ses cerisiers en vieux cheminots et coiffait ses groseilliers de gibus poilus. Peu de jours après, je trouvais ma mère sous l'arbre, passionnément immobile, la tête à la rencontre du ciel d'où elle bannissait les religions humaines.
« Chut ! Regarde !»
Un merle noir, oxydé de vert et de violet, piquait les cerises, buvait le jus, déchiquetait la chair rosée.
« Oh, qu'il est beau !»
chuchotait ma mère.
« Et tu vois comme il se sert de sa patte ? Et tu vois les mouvements de sa tête et cette arrogance ? Et ce tour de bec pour vider le noyau ? Et remarque bien qu'il n'attrape que les plus mûres. »
« Mais maman, l'épouvantail !»«
Chut ! L'épouvantail ne le gêne pas !»«
Mais maman, les cerises !»
Ma mère ramena sur la terre ses yeux couleur de pluie.
« Les cerises ? Ah oui, les cerises !»
Dans ses yeux passa une sorte de frénésie riante, un universel mépris, un dédain dansant qui me foulait avec tout le reste, allègrement. Ce ne fut qu'un moment, non pas un moment unique. Maintenant que je la connais mieux, j'interprète ces éclairs de son visage. Il me semble qu'un besoin d'échapper à tout et à tous, un bond vers le haut, vers une loi écrite par elle seule, pour elle seule, les allumait. S'il me trompe, laissez-moi errer. Sous le cerisier, elle retomba encore une fois parmi nous, lestée de soucis, d'amour, d'enfants et de mari suspendus. Elle redevint bonne, ronde, humble, devant l'ordinaire de sa vie.
C'est vrai, les cerises.
Le merle était parti, gavé, et l'épouvantail hochait au vent son gibus vide.
Cela me semble étrange à présent que je l'ai si peu connu. Mon attention, ma ferveur, tournée vers Sido, ne s'en détachait que par caprice. Ainsi faisait-il lui, mon père. Il contemplait Sido. En y réfléchissant, je crois qu'elle aussi l'a mal connu. Elle se contentait de quelques grandes vérités encombrantes. Il l'aimait sans mesure. Il la ruina dans le dessein de l'enrichir. Elle l'aimait d'un invariable amour, le traitait légèrement dans l'ordinaire de la vie, mais respectait toutes ses décisions. Derrière ces évidences aveuglantes, un caractère d'homme n'apparaissait que par échappée. Enfant, qu'ai-je su de lui ? Qu'il construisait pour moi, à ravir, des maisons des hannetons, avec fenêtres et portes vitrées, et aussi des bateaux. Qu'il chantait, qu'il dispensait et cachait les crayons de couleur, le papier blanc, les règles en palissandre, la poudre d'or, les larges pains à cacheté blanc, que je mangeais à poignée, qu'il nageait avec sa jambe unique, plus vite et mieux que ses rivaux à quatre membres. Mais je savais aussi qu'il ne s'intéressait pas beaucoup, en apparence du moins, à ses enfants. J'écris en apparence. La timidité étrange des pères, dans leur rapport avec leurs enfants, m'a donné depuis beaucoup à penser. C'est à moi qu'il accorda le plus d'importance. J'étais encore petite quand mon père commença d'en appeler à mon sens critique. Plus tard, je me montrais, Dieu merci, moins précoce. Mais quelle intransigeance, je m'en souviens, chez ce juge de 10 ans.
« Écoute ça !»
me disait mon père. J'écoutais ses vers. Il s'agissait d'un beau morceau de prose oratoire, ou d'une ode, vers facile, fastueux, par le rythme, par la rime, sonore comme un orage de montagne.
« Hein ?»
interrogeait mon père.
« Je crois que cette fois-ci, eh bien, parle !»
Je hochais ma tête et mes nattes blondes, mon front trop grand pour être aimable et mon petit menton en bille, et je laissais tomber mon blâme.
Toujours trop d'adjectifs.
Alors mon père éclatait, écrasait d'invectives la poussière, la vermine, le pouls vaniteux que j'étais. Mais la vermine, imperturbable, ajoutait.
Je te l'avais déjà dit la semaine dernière pour l'ode à Paul Bert. Trop d'adjectifs.
Il devait, derrière moi, rire et peut-être s'enorgueillir. Mais au premier moment, nous nous toisions en égaux. Et déjà, confraternel, c'est lui à n'en pas douter. C'est lui qui me domine quand la musique, un spectacle de danse, et non les mots, jamais les mots mouillent mes yeux. C'est lui qui se voulait faire jour et revivre quand je commençais obscurément d'écrire, et qui me valut le plus acide éloge, le plus utile à coup sûr.
Aurais-je épousé la dernière des lyriques ?
Lyrisme paternel, humour, spontanéité maternelle mêlée, superposée. Je suis assez sage à présent, assez fière pour les départager en moi, toute heureuse d'un délitage où je n'ai à rougir de personne ni de rien. Oui, tous quatre, nous autres enfants, nous avons gêné mon père. En est-il autrement dans les familles où l'homme, passant l'âge de l'amour, demeure épris de sa compagne ? Nous avons toute sa vie troublé le tête-à-tête que mon père rêvait. L'esprit pédagogique peut rapprocher un père de ses enfants. À défaut d'une tendresse beaucoup plus exceptionnelle qu'on ne l'admet généralement, un homme s'attache à ses fils par le goût orgueilleux d'enseigner. Mais Jules-Joseph Colette, homme instruit, ne faisait pas rate d'aucune science. Pour elle, il avait d'abord aimé briller, jusqu'au jour où l'amour grandissant, mon père quitta jusqu'à l'envie d'éblouir Sido. J'irai droit au coin de terre où fleurissaient les personnages dans le jardin. La rose, le treillage qu'il apportait, je les peindrai de mémoire ainsi que le trou dans le mur, la dalle usée. La figure de mon père reste indécise, intermittente. Dans le grand fauteuil de repos, il est resté assis. Les deux miroirs ovales du pince-nez ouvert brillent sur sa poitrine. Et sa singulière lèvre en margelle dépasse un peu, rouge, sa moustache qui rejoint sa barbe. Là, il est fixé à jamais. Mais ailleurs, il erre et flotte, troué, barré de nuages visibles par fragments. Sa main blanche ne saurait m'échapper, surtout depuis que je tiens mal mon pouce, en dehors comme lui. Et que, comme cette main, mes mains froissent, roulent, anéantissent le papier avec une fureur explosive. Et la colère, donc, je ne parlerai pas de mes colères qui me viennent de lui. Mais qu'on aille voir seulement à Saint-Sauveur l'état dans lequel mon père mit, de deux coups de son pied unique, la chambranle de la cheminée en marbre. J'épelle en moi ce qui est l'apport de mon père, ce qui est la part maternelle. Le capitaine Colette n'embrassait pas les enfants. Sa fille prétend que le baiser les fane. S'il m'embrassait peu, du moins il me jetait en l'air, jusqu'au plafond que je repoussais des deux mains et des genoux, et je criais de joie. Sa force musculaire était grande, ménagée, et dissimulée d'une manière féline, et sans doute entretenue par une frugalité qui déconcertait nos babourguignons. Du pain, du café, beaucoup de sucre, un demi-verre de vin, force tomate, des aubergines. Il se résigna à prendre un peu de viande comme un remède passé 70 ans. Sédentaire, méridional, tout blanc dans sa peau de satin, n'engraissa jamais.
Italien, homme au couteau.
Ainsi invectivait ma mère quand elle n'était pas contente de lui, ou bien quand l'extraordinaire jalousie de son fidèle amant se faisait jour. De fait, s'il n'a jamais tué personne, un poignard, dont le manche de corne cachait un ressort, ne quittait jamais la poche de mon père, qui méprisait l'arme à feu. Il était poète et citadin. La campagne, où ma mère semblait se sustenter de toute sève et reprendre vie chaque fois qu'en se baissant elle en touchait la terre, éteignait mon père, qui s'y comporta en exilé. Elle nous sembla parfois scandaleuse. La sociabilité qu'il appelait vers la politique des villages, les conseils municipaux, la candidature au conseil général, vers les assemblées, les comités régionaux où l'humaine rumeur répond à la voix humaine. Injuste. Nous lui en voulions vaguement de ne pas assez nous ressembler à nous qui nous dilations d'aise loin des hommes. Je m'avise à présent qu'il cherchait à nous plaire lorsqu'il organisait des parties de campagne, comme font les habitants des villes. La vieille Victoria bleue emportait famille, victuailles et chiens jusqu'au bord d'un étang, Moutier, Chassingue, ou la jolie flaque forestière de la Guillemette qui nous appartenait. Mon père manifestait le sens du dimanche, le besoin urbain de fêter un jour entre les 7 jours, au point qu'il se munissait de cannes à pêche et de sièges pliants. Au bord de l'étang, il essayait une humeur joviale qui n'était pas son humeur joviale de la semaine. Il débouchait plaisamment la bouteille de vin, s'accordait une heure de pêche à la ligne, lisait, dormait un moment, et nous nous ennuyions, nous autres, Sylvain au pied léger, entraînés à battre le pays sans voiture et regrettant devant le poulet froid nos encas de pain frais, d'ail et de fromage. La libre forêt, l'étang, le ciel double exaltait mon père, mais à la manière d'un noble décor. Plus il évoquait le bleu titarèse et le golfe d'argent, plus nous revenions taciturnes. Je parle des deux garçons et de moi, nous qui n'accordions déjà plus d'autres aveux à notre culte bocager que le silence. Assise au bord de l'étang, entre son mari et ses enfants sauvages, seule ma mère semblait recueillir mélancoliquement le bonheur de compter, gisant contre elle, sur l'herbe fine et jonceuse, rougie des bruyères, ses bien-aimés. Loin du coup de sonnette importun, loin de l'anxieux fournisseur impayé, loin des voies côteleuses, un cirque parfait de bouleaux et de chaînes, enfermé, j'accepte l'infidèle fiéné, son œuvre et son tourment. Courant enrisé sur les cimes des arbres, le vent franchissait la brèche ronde, touchait rarement l'eau. Les dômes des mousserons rosés crevaient le léger terreau, gris d'argent, qui nourrit les bruyères, et ma mère parlait de ce qu'elle et moi nous aimions le mieux. Elle comptait les sangliers des anciens hivers, les loups encore présents dans la puisaie et la forterre, le loup d'été, maigre, qui suivit 5 heures durant la Victoria.
Si j'avais su quoi lui donner à manger, où il aura bien mangé du pain. À toutes les côtes, il s'asseyait pour laisser à la voiture son avance d'une 50aine de mètres. De le sentir, la jument était furieuse. Un peu plus, c'est elle qui l'eût attaqué.
Tu n'avais pas peur ?
Peur ? Non. Ce grand loup gris, sec, affamé, sous un soleil de plomb. D'ailleurs, j'étais avec mon premier mari. C'est lui aussi, mon premier mari, qui, en chassant, a vu le renard noyer ses puces. Une touffe d'herbe entre les dents, le renard est entré le derrière le premier, et peu à peu dans l'eau jusqu'au museau.
Paroles innocentes, enseignement maternel que donnent aussi à leurs petits, l'hirondelle, la merlièvre, la chatte, récits délicieux dont mon père ne retenait qu'un mot, mon premier mari. Et il appuyait sur Sido, ce regard bleu-gris dans lequel personne n'a jamais pu lire. Que lui importait d'ailleurs le renard, le muguet, la baie mûre, l'insecte? Il les aimait dans les livres, nous disait leurs noms scientifiques, et dehors les croisait sans les reconnaître. Il louait, sous le nom de Rose, tout corolle épanoui. Il prononçait « l'eau », bref, à la provençale, en pinçant entre le pouce et l'index, une rose invisible. Le soir tombait enfin sur notre dimanche au champ. De 5, nous n'étions souvent plus que 3, mon père, ma mère et moi. Le rempart circulaire des bois assombris avait résorbé les 2 longs garçons osseux, mes frères.
« Nous les rattraperons sur la route en revenant, »
disait mon père. Mais ma mère secouait la tête. Ces garçons ne rentraient que par des sentes de travers, des prés marécageux et bleus. Coupant par les sablières, les ronciers, ils sautaient le mur au fond du jardin. Elle se résignait à les trouver chez nous à la maison, un peu saignant, un peu loqueteux. Elle reprenait sur l'herbe les reliefs du repas, quelques champignons frais cueillis, le nid de mésanges vides, la cartilagineuse éponge cloisonnée, œuvre d'une colonie de guêpes, le bouquet sauvage, des cailloux empreints d'ammonites fossiles, le grand chapeau de la petite, et mon père, encore agile, remontait d'un saut déchassieux dans la Victoria. C'est ma mère qui caressait la jument noire, qui offrait à ses dents jaunies des pouces tendres et qui essuyait des pattes du chien bateaugeur. Je n'ai jamais vu mon père toucher un cheval. Nulle curiosité ne l'a attiré vers un chat penché sur un chien. Jamais un chien ne lui a obéi.
Allons, monte,
ordonnait à Mofino la belle voix du capitaine. Mais le chien, contre le marchepied de la voiture, battait de la queue froidement et regardait ma mère.
Monte, animal, qu'est-ce que tu attends?
Répétait mon père.
J'attends l'ordre.
J'attends l'ordre, semblait répondre le chien.
Et saute,
lui criai-je. Il ne le faisait pas dire deux fois.
C'est très curieux,
constatait ma mère.
Ça prouve seulement la bêtise de ce chien,
répliquait mon père. Mais nous n'en croyons rien, nous autres. Et mon père, au fond, se sentait secrètement humilié. Les genets jaunes, bottelés, faisaient queue de paon derrière nous, dans la capote de la vieille voiture. Mon père, en approchant du village, reprenait son fredon défensif et nous avions sans doute l'air très heureux, car l'air heureux était notre suprême et mutuelle politesse. Soir commençant, fumée courante sur le ciel, fiévreuse première étoile, est-ce que tout autour de nous n'était pas aussi grave et aussi tremblant que nous-mêmes? Un homme, banni des éléments qu'il avait jadis portés, rêvait amèrement. Amèrement, maintenant j'en suis sûr, il faut du temps à l'absent pour prendre sa vraie forme en nous. Il meurt, il mûrit, il se fixe.
C'est donc toi. Enfin, je t'avais pas compris.
Il n'est jamais trop tard puisque j'ai pénétré ce que ma jeunesse me cachait autrefois. Mon brillant, mon allègre père nourrissait la tristesse profonde des amputés. Nous n'avions presque pas conscience qu'il lui manqua, coupé en haut de la cuisse, une jambe. Qu'eussions-nous dit à le voir soudain marcher comme tout le monde? Ma mère elle-même ne l'avait connu qu'étayé de béquilles, preste et rayonnant d'insolence amoureuse. Mais elle n'y aurait, fait d'armes excepté, l'homme qui datait d'avant elle, le Saint-Cyrien, beau danseur, le lieutenant solide comme un bois debout. Ainsi l'on nomme dans mon pays natal l'antique billot, la rouelle de chêne au grain serré que n'entame pas le hachoir. Elle ignorait, quand elle le suivait des yeux, que ce mutilé avait autrefois pu courir à la rencontre de tous les risques. Amèrement, le plus ailé de lui-même s'élançait encore, lorsqu'assis, et sa chanson suave aux lèvres, il restait aux côtés de Sido. L'amour est rien d'autre, il n'avait gardé qu'elle.
Je ne les ai jamais surpris à s'embrasser avec abandon. D'où leur venait tant de pudeur? De Sido, assurément. Mon père n'y eut pas mis tant de façons. Attentif à tout ce qui venait d'elle, il écoutait son pas vif, l'arrêtait au passage. « Paye !» lui ordonnait-il, en désignant sa pommette nue au-dessus de sa barbe.
« Où on ne passe pas ?»
Elle payait au vol, d'un baiser vif comme une piqûre, et s'enfuyait, irrité, si mes frères ou moi l'avions vu payer. Une seule fois, en été, un jour que ma mère enlevait de la table le plateau du café, je vis la tête, la lèvre grisonnante de mon père, au lieu de réclamer le péage familier, penchée sur la main de ma mère avec une dévotion fougueuse, hors de l'âge, et telle que Sido, muette, autant que moi empourprée, s'en alla sans un mot. J'étais petite encore, assez vilaine, occupée comme on l'est à 13 ans de toutes choses dont l'ignorance pèse, dont la découverte humilie. Il me fut bon de connaître et de me remettre en mémoire, par moments, cette complète image de l'amour. Une tête d'homme, déjà vieux, abîmée dans un baiser sur une petite main de ménagère gracieuse et ridée. Il trembla longtemps de la voir mourir avant lui. C'est une pensée commune aux amants, aux époux bien épris. Un souhait sauvage qui bannit toute idée de pitié. Sido, avant la mort de mon père, me parlait de lui, aisément soulevé au-dessus de nous.
Il ne faut pas que je meure avant lui. Il ne le faut absolument pas. Vois-tu que je me laisse mourir et qu'il se tue et qu'il se manque? Je le connais,
disait-elle d'un air de jeune fille. Elle rêvait un peu, les yeux sur la petite rue de Châtillon-Coligny, ou sur le carré de jardin prisonnier.
Moi, je risque moins, tu comprends? Je ne suis qu'une femme. Passé un certain âge, une femme ne meurt presque jamais volontairement. Et puis, je vous ai, en outre. Lui, il ne vous a pas.
Car elle savait tout, et jusqu'aux préférences indicibles. Dans la grappe pendue à ses flancs, à ses bras, mon père pesait comme nous, et ne nous soutenait guère. Elle fut malade, et il s'assit fréquemment près du lit.
À quelle heure? Quel jour seras-tu guérie? Gare si tu ne guéris pas. J'aurais bientôt fait de ne plus vivre.
Elle ne supportait pas cette pensée d'homme, sa menace, son exigence sans merci. Pour lui échapper, elle tournait de côté et d'autre sa tête sur l'oreiller, comme elle fit plus tard pour secouer les derniers liens.
« Mon Dieu, Colette, tu me tiens chaud !»
se plaignait-elle.
« Tu remplis toute la chambre. Un homme est toujours déplacé au chevet d'une femme. Va dehors, va voir s'il y a des oranges pour moi chez l'épicier. Va demander à Monsieur Rosimond de me prêter la revue des deux mondes. Mais marche doucement, le temps est orageux, tu reviendras en moiteur. »
Il obéissait, l'aisselle remontait sur sa béquille.
« Tu vois, »
disait ma mère derrière lui,
« tu vois cet air de vêtements vides qu'il prend quand je suis malade ?»
Sous la fenêtre, en s'en allant, il éclaircissait sa voix pour qu'elle l'entendît.
« Je pense à toi, je te vois, je t'adore. À tout instant, à toute heure, en tout lieu. Je pense à toi quand je revois l'aurore. Je pense à toi quand je ferme les yeux. »
« Tu l'entends ?»
disait-elle fiévreusement. Mais sa malice supérieure rajeunissait soudain tout son visage, et elle se penchait hors de son lit.
« Ton père, tu veux savoir ce que c'est que ton père ? Ton père, c'est le roi des maîtres chanteurs. »
Elle guérit, elle guérissait toujours. Mais quand on lui enleva un sein, et 4 ans après l'autre sein, mon père conçut d'elle une méfiance terrible, quoiqu'elle guérit encore chaque fois. Pour une arête de poisson qui restait au gosier de ma mère, l'obligeait à tousser violemment, les joues congestionnées et les yeux pleins de larmes, mon père, d'un coup de poing asséné sur la table, dispersa en éclats son assiette et cria furieusement
« Ça va finir !»
Elle ne s'y trompa point et l'apaisa avec une délicatesse miséricordieuse, des mots plaisants, de voltigeants regards. J'emploie toujours ces mots, voltigeants regards, quand il s'agit d'elle. L'hésitation, le besoin d'un tendre aveu, le devoir de mentir, l'obligeait à battre des paupières, tandis qu'allait, venait précipitamment ses prunelles grises. Ce trouble, cette fuite vaine des prunelles, poursuivie par un regard d'homme bleu-gris comme le plomb fraîchement coupé, c'est tout ce qui me fut révélé de la passion qu'il y a pour leur vie entière, Sido et le capitaine.
Si vous avez aimé ces extraits, vous retrouverez l'univers vivant et imagé de Colette en poursuivant la lecture de Sido, disponible en librairie, en livre de poche ou en bibliothèque. Vous avez entendu les voix de Anne, Marie-Paul et Annie. Claude Michel a assuré le montage. Les musiques sont extraites de la rêverie L68 de Debussy, interprétée par Daniel Hopp, et du quintet en ut mineur, opus 115, Allegro Vivo de Fauré. Merci pour votre écoute et à bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre,
rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.